Alors aujourd'hui, il m'incombe de vous parler d'un chapitre du livre des Actes, pour faire la suite à nos études habituelles. Et c'est un grand chapitre, le chapitre 10 des Actes, sur lequel on peut rajouter les 18 premiers versets du chapitre 11, puisque c'est deux chapitres qui vont ensemble. Alors je ne vais pas tous les lire. Vous savez, c'est très important ce qui se passe dans ces chapitres parce que si ça avait mal tourné, ce qui s'est passé dans ces chapitres, je ne sais pas où nous serions. Peut-être que nous serions en train de cueillir du gui avec les druides. Peut-être nous serions en train d'adorer Neptune ou Diane au jardin de la Fontaine, je ne sais pas. Il fallait que l'Évangile arrive jusqu'à nous. C'était la volonté de Dieu. Rien ne pouvait l'en empêcher. Mais il y avait des obstacles. Et ces obstacles, nous allons les voir dans ces chapitres 10 et 11. Alors, le Seigneur Jésus a donné une prophétie à la fin des évangiles. Il a donné une prophétie que nous connaissons bien puisqu'elle est rapportée au début du livre des Actes où le Seigneur dit « Vous restez à Jérusalem, une puissance va venir sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. » Alors, tout au long de ce livre des Actes, eh bien, se déroule cette prophétie, l'accomplissement de cette prophétie. Notre frère Paul Efona, dimanche dernier, nous a dit que, et à juste raison, et je vais abonder dans ce sens, qu'il ne nous faut pas lire la Bible d'une manière homéopathique. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire à petite dose. Il savait pourquoi il dit ça, parce que c'est nécessaire pour notre vie, pour le renouvellement de notre intelligence, pour notre nourriture, pour nos forces spirituelles, de plonger nos cœurs, nos intelligences dans la parole de Dieu et pas seulement un verset par jour. C'est déjà bien un verset. Mais c'est peut-être pas suffisant. Donc, je vous propose une méthode, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, je l'utilise souvent, c'est lorsque je démarre un livre biblique, par exemple le livre des Actes, pourquoi pas, c'est de donner un titre au chapitre que je lis. Et à cela, y rajouter le verset qui m'a le plus parlé. Alors ça peut être en rapport avec le titre ou autre. Et j'ai l'habitude de faire ça et ça m'a permis de mémoriser en quelque sorte, la parole de Dieu. Je laisse ça sur vos cœurs, peut-être vous le mettrez en pratique et vous verrez que ça marche. Donc, acte 1, il y a cette promesse du Seigneur. Acte 2, c'est la Pentecôte. Acte 2, c'est la Pentecôte et le verset que nous pourrions retenir de ce chapitre 2, c'est Pierre dans sa prédication qui dit « Que toute la maison d'Israël sache que Dieu a établi Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Moi, j'aime bien ce verset. Vous pouvez en trouver un autre, bien sûr. Chapitre 3, c'est la guérison du lépreux. Alors, il y avait à la porte du... Bon, je ne vais pas reprendre la prédication qui nous a été donnée. Mais ce lépreux suivi du deuxième discours, de la deuxième prédication de Pierre, et le verset que j'ai retenu de ce chapitre 3, c'est Pierre qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Ça se trouve dans le chapitre 3. Chapitre 4, il y a une arrestation des disciples, et le troisième discours de Pierre, et ce verset que j'aime beaucoup aussi, « Il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'a été donné aucun autre nom que celui de Jésus, bien entendu, par lequel nous puissions être sauvés. Ah, l'évangile est clair dans ce verset. Chapitre 5, Ananias et Saphira. Ah, c'est un chapitre difficile, ça nous a été commenté, je ne le commente pas, mais le verset qui me semble sortir de ce chapitre, c'est « Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, c'est à Dieu. Vous avez menti au Saint-Esprit. » Retenez ce verset parce que ça nous prouve que le Saint-Esprit est Dieu. Quand vous discutez avec des témoins de Jéhovah, vous pouvez avoir ce verset en tête. Le Saint-Esprit est Dieu. Et on ne peut pas mentir à une puissance, on ne peut pas mentir à une force. Certains disent que le Saint-Esprit n'est qu'une force, mais c'est une personne. On ment à une personne, on ne peut pas mentir à quelqu'un d'autre. Chapitre 6, c'est la nomination des diacres par l'Assemblée. Et c'est la croissance de l'Assemblée. C'est intéressant parce que c'est l'Assemblée qui a nommé les diacres. Et c'est les anciens qui ont validé la décision de l'Assemblée, à retenir. Le verset que on pourrait retenir de ce chapitre 6, c'est « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait de plus en plus. » Qu'est-ce que c'est beau, ça. Chapitre 7, c'est le discours d'Étienne. Alors, Étienne fait un discours apologétique. Vous rappelez, Vincent nous a bien expliqué ce que ça voulait dire. C'est-à-dire un discours qui atteste, qui prouve la vérité de l'Écriture. Et j'aime bien ce verset, le dernier, où Étienne dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » À l'exemple de Jésus sur la croix, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » « Ne leur impute pas ce péché. » Et il est dit « Et Étienne s'endormit. » Et ce verbe, dans la Bible, correspond toujours au sommeil du croyant. Les incroyants, ils ne s'endorment pas, ils meurent. Mais les croyants, ils s'endorment. C'est beau, ça. Chapitre 8, c'est la réalisation de la prophétie du Seigneur Jésus qui avait dit à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie. Là, il y a une persécution et les disciples sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir parce que c'est dur pour eux, mais Dieu s'en sert, évidemment. Dieu se sert de tout pour amener la Judée et la Samarie dans la connaissance de l'évangile de Jésus. Bon, le verset que j'ai choisi sur le chapitre 8, ça ne correspond pas à ça. C'est sur l'eunuque, parce que c'est aussi dans le chapitre 8. Et j'aime bien le dernier verset aussi, c'est l'eunuque qui reçoit Jésus, il est baptisé, et il partit dans son pays tout joyeux. C'est beau ça, tout joyeux. Ça veut dire que quand on reçoit Jésus, ça change là-dedans. La joie. Chapitre 9, c'était dimanche dernier avec Paul, et Paul, puisque c'est la conversion de Saul de Tarse. Et le verset que j'ai choisi, mais vous pouvez en choisir un autre, c'est « Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Je trouve que c'est beau. Et nous en arrivons au chapitre 10, qui est la dernière partie de la prophétie du Seigneur Jésus aux extrémités de la terre. Donc Dieu veut ouvrir l'évangile aux nations. Et ça, c'est difficile parce que Pierre, il n'est pas du tout convaincu de ça. Et il va falloir que le Seigneur use de force, de puissance, peut-être aussi d'originalité, pour arriver à convaincre Pierre de cela. Et c'est ce que nous allons voir. Revenons un peu en arrière, dans Matthieu chapitre 16, Jésus pose une question à ses disciples. Il leur dit « Qui dites-vous que je suis ?» Alors il y a plusieurs réponses et Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu béni ou du Dieu vivant. » Alors Jésus dit « Mais c'est une bonne réponse. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Aussi, parce que tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, dit Jésus. Phrase un peu énigmatique. Et là, on n'est pas d'accord du tout avec nos amis catholiques, bien sûr, parce qu'eux, ils disent que c'est Pierre sur lequel l'église est bâtie. Mais le Saint-Esprit nous convainc que ce n'est pas sur un homme que l'église est bâtie, mais sur Jésus. Et le roc en question, ce n'est pas Pierre, c'est la déclaration de Pierre qu'il vient de faire. C'est la déclaration de Pierre qu'il vient de faire en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu béni » et l'Église est bâtie sur cette déclaration. Et juste après, le Seigneur lui dit « Pierre, je te donne les clés du royaume. » Alors, ce n'est pas les clés du paradis, c'est les clés du royaume. Ce ne sont pas des clés physiques, pas un trousseau de clés. Ce sont des clés spirituelles. Mais qu'est-ce que Pierre va donc faire de ces clés? Eh bien, il va utiliser la première de ces clés. Dans Acte 2, il va ouvrir la porte du royaume aux Juifs. Dans sa belle prédication, 3000 convertis d'un coup. Et après 5000, Jérusalem est remplie de disciples. Donc, il a utilisé les clés, il a ouvert le royaume aux Juifs. Et aujourd'hui, nous allons donc faire une lecture, j'y viens quand même, c'est l'utilisation du trousseau de clés pour les non-Juifs. Alors, on va faire un peu de sémantique avant de lire, c'est-à-dire on va faire un peu de vocabulaire. Non-Juifs. Païen, si on prend un terme hébreu, goïm, mais aussi gentil. Alors celui-là, c'est un faux ami, parce que le mot gentil, on l'utilise mais dans notre vocabulaire journalier, mais pour autre chose. Hein. Voilà, tu as mangé ta soupe, tu es bien gentille. Mais ce n'est pas du tout ça. Les gentils, ce sont les non-juifs. D'ailleurs, si on le met au féminin, on dit une population gentille. Et pas gentilleux. Bon, bref. Donc, quand vous voyez le mot gentil dans l'écriture, sachez ce que ça veut dire. Et donc, Dieu s'est proposé d'ouvrir l'évangile aux nations, aux gens des nations, aux païens, aux goïms, tout ce que vous voulez. Mais il y en a un qui n'est pas d'accord. C'est Pierre. Et donc, dans la lecture que nous allons faire, Dieu va faire en sorte que deux personnes se rencontrent, complètement opposées l'une à l'autre dans le sens de leur culture, de leur métier, de leur religion, de leur pays d'origine, complètement différentes. Mais Dieu, qui est vraiment celui qui est capable de faire des choses pareilles, nous on n'est pas capable, va faire en sorte que les choses se passent comme ça. Et on va lire, alors on va demander, ben voilà, c'est parfait. Actes chapitre 10. Et ça s'affiche devant moi. C'est parfait. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ! » Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus, qui était le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée? Alors attendez, parce que là, on a sauté plusieurs versets. Oui, j'ai oublié de vous dire, pour que ça fasse plus court, on en vient là. Donc c'est Pierre qui parle et qui dit à... Ça aurait été bien que tu le mettes un peu avant, parce que sinon ils ne comprendront pas. Voilà, 31. Corneille, ta prière a été exaucée, Dieu s'est souvenu de tes aumônes, envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, donc c'est Corneille qui parle, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il envoyait la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui et après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Il dit, et là on va reprendre ce que je n'ai pas lu dans le chapitre 10. J'étais dans la ville de Joppé, et pendant que je priais, je tombais en extase, et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur. » car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, comme impur. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée, c'est-à-dire de chez Corneille, vers moi, se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, etc. Pardonnez-moi, frères et sœurs, pour cette longue lecture. Mais bon, lire la Bible, on vient de le dire, c'est pas mauvais. Hein ? Donc, cette longue lecture nous éclaire sur ce qui s'est passé, ce que Dieu a mis en place, deux miracles finalement. Un dans la maison de Corneille avec cet ange qui apparaît, et un avec cette extase et cette vision qui est donnée à Pierre sur le toit de la maison à Joppé. Vous savez, le cœur humain est particulièrement enclin à garder pour lui les bonnes choses que Dieu lui donne. Bon, ce n'est pas une généralité, il y a beaucoup de gens généreux ici dans cette salle, mais de façon générale, le cœur humain dit Ah, ça me fait du bien ce que Dieu m'a donné. Et nous gardons souvent pour nous-mêmes ce que le Seigneur nous a donné. Et nous n'en faisons pas profiter les autres. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire où il y a des lépreux qui ont une abondance de nourriture et il y a la famine dans la ville à côté. Et ils réfléchissent et ils disent « Ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous nous taisons. » Est-ce que cette phrase que ces lépreux ont dit dans l'Ancien Testament ne pourrait pas s'appliquer à nous ?« Ce jour est un jour de bonnes nouvelles et nous nous taisons. » Oui, nous devons, frères et sœurs, faire connaître la personne de Jésus autour de nous. Et nous le faisons, nous devons le faire encore plus. Alors, on aurait pu penser que l'Église naissante s'était affranchie de cet état d'esprit égoïste et aurait voulu tout de suite proclamer au monde entier la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'en fut rien. Pour Pierre, c'était « le salut vient des Juifs et le salut est pour les Juifs ». Et il s'arrêtait là. J'avais prévu, mais le temps me manque et je ne le ferai pas, mais j'avais prévu un dialogue que nous aurions pu initier avec Pierre. Ça aurait été sympa d'interroger Pierre et de lui répondre. Mais je ne peux pas le faire parce que le temps va me manquer. Alors Dieu a un projet et il va intervenir puissamment pour modifier les paradigmes de Pierre. Vous vous rappelez, Philippe Adam à Gagnères nous a rappelé ce que c'était qu'un paradigme. Hein. C'est une façon de penser qui conduit à des actes. Et Pierre a une façon de penser qui n'est pas bonne et donc qui ne va pas produire de bonnes choses. Alors, présentation de Pierre. On en a déjà beaucoup parlé ce matin, mais continuons. Pierre, mais c'est le leader numéro un de l'époque. Pierre, c'est celui qui, avec une prédication, a amené 3000 personnes, je l'ai dit, à la conversion. Pierre est dans toutes les bouches, à Jérusalem et ailleurs. Pierre, c'est celui qui a accompagné Jésus dans les grands moments. La montagne de la Transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Lors de la petite fille de Jaïrus et de sa résurrection, il y avait Pierre, un grand moment. À Gethsémané, 3 disciples ont été choisis. Il y avait Pierre. Pierre, c'est vraiment celui qui, l'ami de Jésus, en qui Jésus a toute confiance. Bon, il a fallu que le Seigneur le corrige, bien sûr, dans Jean 21. Mais Pierre, c'est quelqu'un sur lequel le Seigneur va fonder, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va lui donner les clés, etc. Mais, même s'il a une grande autorité, vous savez que dans l'histoire d'Ananias et Saphira, quelle autorité, là ? Parce que tu as menti au Saint-Esprit, tu vas mourir. Ananias est tombé mort. Et à sa femme, pareil. Quelle autorité ! Et pourtant, il est cependant un croyant en formation. Comme chacun d'entre nous. Vous savez, petite anecdote personnelle, quand j'étais jeune, j'avais mon grand-père qui était pasteur, il prêchait tous les dimanches, du 1er janvier au 31 décembre, la prédication, c'était mon grand-père. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a amené au Seigneur. Bon, il avait fait la guerre de 14, il n'était pas tendre. Hein. C'était quelqu'un de carré, mais qui aimait le Seigneur. Et je me souviens, il avait environ 80 ans, il me disait, « André, je suis à l'école du Seigneur tous les jours. » Je dois vous dire que je le croyais qu'à moitié. Comment, lui, qui prêche tous les dimanches, qui est... Non, il n'est pas à l'école. C'est lui qui nous enseigne. Et force est de constater, en vieillissant, que nous pouvons dire, chacun de nous ici, honnêtement, nous sommes à l'école du Seigneur, comme le disait le grand-père. Mais à Pierre, il lui manque des éclairages. Il lui manque des ajustements. Et le Seigneur va les lui donner. Il faut reconnaître qu'il est quand même dans une bonne attitude. Il prie. Il nous est dit qu'il monte sur le toit. Il avait faim. Ben, il monte sur la maison pour prier. Il fait passer ses besoins naturels après le Seigneur. C'est peut-être une leçon que nous pourrions retenir. Et là, il prie. Et le Seigneur, dans sa sagesse et dans sa puissance, lui montre que par une extase, une vision extraordinaire que nous n'aurions pas imaginée, que ce que Dieu a déclaré pur, puisqu'il lui dit « tue et mange », ben Pierre n'a pas à dire autre chose. D'ailleurs, les mots « non Seigneur », comme dit Pierre, ils ne vont pas ensemble. Normalement, c'est « oui Seigneur », c'est pas « non Seigneur ». Bon. Donc Pierre est préparé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit « les hommes qui frappent à ta porte, c'est moi qui les ai envoyés, n'aie pas peur, va avec eux », etc. Donc Pierre, ça y est, il est prêt. Mais il y a un autre personnage dans notre histoire, c'est Corneille. Alors Corneille, lui, il fait partie de la plus grande armée de l'époque, on a parlé d'armée ce matin, l'armée romaine. Il est centurion, il est donc chef de la centurie, une centurie c'est 100 personnes, 100 soldats, et il fait partie d'une cohorte, une cohorte c'est 600 personnes, c'est 600 soldats. C'est 10 centuries. Et le chef, c'est le tribun. Je fais un petit peu cours d'histoire, là. J'ai deux profs d'histoire. Alors... Et le chef, d'ailleurs, au-dessus de la cohorte, il y a la Légion. Vous connaissez le mot. La Légion, c'est 6000 soldats, avec comme chef le légat ou le général. La cohorte de Corneille est appelée italienne. Pas pour rien qu'il y a ce détail. C'est-à-dire que tous les soldats qui sont dans cette cohorte ont été formés à Rome. Ce sont des gladiateurs avertis. Ce ne sont pas des tendres. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils ont été envoyés spécialement à Jérusalem pour calmer les émeutes et être violents avec les juifs zélotes qui veulent rétablir l'autorité juive. Le patron de Corneille, c'est donc l'armée romaine. Alors là, je ne résiste pas à vous inviter à venir avec moi dans l'Ancien Testament. Et là, je vais sortir ma zapette. Et on va aller, voilà, dans une prophétie qui a été donnée par Daniel. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'ai pas oublié Corneille, et on va le retrouver là-dedans, enfin, du moins son patron. 4 grands animaux sortirent de la terre, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion qui avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours qui se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, alors retenez bien ce verset, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Et Daniel 7:7, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Pourquoi je vous ai lu cette prophétie ? Qui, semble-t-il, n'a pas de place dans le récit de Corneille. Eh bien, parce que ce quatrième animal correspond, me semble-t-il, à l'Empire romain. Alors, le premier, c'était un lion. Nous savons que l'Empire babylonien, alors tous les exégètes de la Bible s'accordent pour dire que le lion, c'est Babylone. Moins 1800 avant Jésus-Christ, 500 avant Jésus-Christ, vaincu par les Mèdes et les Perses, et je parle sous le contrôle de mes amis profs d'histoire, vaincu par les Mèdes et les Perses, imagé par l'ours. En 333, Alexandre le Grand, semblable à un léopard par la rapidité de ses conquêtes, général à 20 ans, meurt à 33 ans. En 13 ans, il va jusqu'aux Indes et vainc bien sûr les Mèdes et les Perses et domine le monde. Et puis, un peu plus tard, après que les quatre généraux d'Alexandre le Grand se soient partagés l'Empire romain arrive. L'Empire romain arrive et vainc la Grèce. Et donc, domine le monde à son tour. Et c'est de lui qu'il est dit ça. Verset 7. Il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort, des grandes dents de fer, mangé, brisé. Frères et sœurs, le patron de Corneille, c'était ça. Vous dire que quand on est chef de 100 soldats, ça ne doit pas être facile quand on aime Dieu. Ça ne doit pas être facile quand on craint Dieu. Ça ne doit pas être facile quand on veut que la justice soit respectée. Peut-être que ce matin, quelqu'un parmi nous est troublé dans son travail. Il se dit, mais ce qu'on me demande de faire, ça ne correspond pas à l'éthique que j'ai. Ce qu'on me demande de faire, ce n'est pas compatible avec ma foi. Mon frère, ma sœur, regarde à Corneille. Regarde à Corneille. Corneille n'a pas honte de sa foi. Corneille expose ses convictions, à tel point qu'il y a même un soldat de sa cohorte qui se convertit. C'est dit, avec un soldat pieux, il est allé chercher Pierre. Regarde à Corneille, qui, envers et contre tout, maintient sa foi dans ce Dieu vivant. Il a tourné le dos au polythéisme, il a tourné le dos à la majorité, à la foi de la majorité de ceux qui travaillent avec lui. Il ne branche pas. Et Dieu le voit. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es en difficulté professionnelle, toi qui te dis mais je vais arrêter, je ne peux plus continuer, sois encouragé ce matin. Sois encouragé. Et vois que le Seigneur aide ceux qui sont en difficulté. Vous savez, moi j'ai travaillé dans une entreprise où le nom de Jésus-Christ n'était pas porté haut et fort. C'était la banque. La banque, c'est maman, vous le savez. Et un jour que je me plaignais, nous étions réunis quelques chrétiens à la maison, et je disais, oh, c'est difficile pour moi, il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. Au bout d'un petit moment, il y a une sœur qui a pris la parole et qui a dit, et ça m'est resté puisque je vous le redonne, André, tu sais, si tu craques une allumette de plein jour pour y voir plus clair, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si tu craques une allumette dans une pièce noire, dans une pièce sombre, alors ton allumette est importante, elle est claire. J'ai compris le message. C'était une parole prophétique pour moi et le Seigneur me montrait que même si je trouvais que c'était sombre et triste à la banque, il n'y avait pas d'écho pour Dieu, le simple fait d'aimer le Seigneur dans ce travail-là et d'être fidèle était une allumette dans une pièce sombre. Je laisse ça sur le cœur de quelqu'un ce matin qui pourrait être découragé dans son travail ou dans ses circonstances. Alors, pour terminer, application morale. Frères et sœurs, à l'image de Corneille, assumons notre différence de chrétiens dans un monde étranger aux valeurs chrétiennes. Assumons notre différence. Quelqu'un a dit ce matin, dans sa prière, je crois, être fier de Jésus, être fier de sa foi. Soyons fiers d'appartenir au Seigneur. Soyons fiers de ce qu'il a fait pour nous. Soyons fiers de l'Évangile, même s'il n'y a pas d'écho. Soyons fiers. Encourageons-nous aussi dans nos difficultés professionnelles par l'exemple de Corneille. Courage, résilience, foi, conviction, le Seigneur le voit. Et c'est lui que le Seigneur a choisi pour être le premier converti des nations. C'est lui. Voilà. Alors j'ai marqué, toi qui te demandes comment concilier ton travail séculier avec ta foi chrétienne, toi qui penses démissionner à cause des difficultés de relation avec ton chef, toi qui n'as plus trop de goût ni de reconnaissance professionnelle, pense à Corneille, imite sa foi, demande à Jésus son courage. Alors ces deux actes surnaturels que nous avons vus ce matin, l'ange et l'extase de Pierre, ne vont pas servir qu'à eux deux seuls. Parce que quand Corneille va faire venir toute sa maison et va raconter à tous ses employés, à toute sa famille, ce qui lui est arrivé avec l'ange, ça va leur parler. Donc Dieu, quand il fait intervenir quelque chose de surnaturel, ne nous parle pas seulement à nous, mais parle aux autres. Bon, la prédication de Pierre. Il me reste 5 minutes. Pierre est introduit maintenant dans la maison de Corneille. Corneille s'agenouille devant lui. Que va faire Pierre? Il le relève et il dit non. Je suis un homme, comme toi. Alors ça serait bien que certains papes lisent la Bible. D'ailleurs tous les papes. Et qui se disent, si Pierre a relevé celui qui s'est prosterné devant lui, je ne devrais pas accepter qu'on me vénère, qu'on me baisse la main ou les pieds. Pierre, lui, ne l'a pas permis. Donc Pierre prêche et pointe 2 directions. Il parle de Jésus, oint du Saint-Esprit, revêtu de puissance, vainqueur du diable, vainqueur des démons, soulage les malades, délivre les captifs, ressuscite les morts. C'est le ministère de Jésus que Pierre met en premier. Puis ensuite, la 2e direction, Jésus souffre, meurt et ressuscite. Dès lors, celui qui croit est sauvé. Tout y est. L'enseignement est complet. Pierre ne s'est pas étendu comme la première fois, comme les premières fois. Il a pas. Il dit juste ça. Et là, Corneille croit. Il croit. Il lui manquait que ça. Alors peut-être je pourrais faire une petite parenthèse. Il est dit dans Acte 11 que Corneille n'est pas sauvé. Il dit « Pierre te montrera les choses par lesquelles tu seras sauvé ». Donc ça veut dire que Corneille ne l'est pas. Réfléchissons un instant à ça. Corneille est généreux, il fait des aumônes. Corneille prie. Corneille, qu'est-ce qu'il est dit? Il a la crainte de Dieu. Alors il est sauvé? Ben non. Comment est-on sauvé, frères et sœurs? Peut-être c'est de l'école du dimanche que je vous fais ce matin, mais ça fait rien. Ça fait du bien d'entendre l'Évangile. Comment on est sauvé? On est sauvé que par Jésus. Mais Corneille, il ne connaissait pas Jésus. Il avait du respect pour le Créateur, il avait du respect pour la justice sociale, la justice dans son travail. Il avait un cœur droit, il craignait Dieu, mais il n'était pas sauvé. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui est dans cette situation, qui vient au CMLK, qui a commencé à apprendre les cantiques, peut-être même il lève les mains. Peut-être il lit la Bible. Mais encore, il n'a pas fait de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Peut-être encore, il n'a pas parlé avec Jésus. Peut-être encore que c'est resté cérébral. C'est pas descendu dans son cœur. Alors sache que ce matin, si tu te reconnais dans cette description, comme ça a été dit par des paroles prophétiques ce matin, Dieu t'aime et veut pas que tu restes comme ça. Il ne veut pas que tu aies une connaissance intellectuelle. Il ne veut pas simplement. Il veut que tu rencontres ton Sauveur. Il veut que tu parles à Jésus. Il veut que tu crois en son sacrifice. Ce n'est que par Jésus que l'on est sauvé. On l'a lu tout à l'heure. Jésus est le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Alors, c'est presque terminé. Corneille croit, il est sauvé. Les siens croient, ils sont sauvés. Mais il faut aller un peu plus loin. Il faut que les apôtres à Jérusalem soient convaincus. Et là, ce n'est pas gagné non plus. Quand Pierre vient à Jérusalem, ils se mettent en colère. Enfin, ils le reprennent. Il dit, mais attends, tu es rentré chez des incirconcis, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas dans notre religion. On ne rentre pas chez des païens comme ça et on ne mange pas avec eux et tu les as fait dormir chez toi. Non. Et Pierre reprend. Alors regardez la pédagogie de Pierre. Calmement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Il explique. Il explique tout ce que nous avons lu. Et là, qu'est-ce qu'il est dit ? Le dernier verset. Je vais vous le lire. Le dernier verset de Actes 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. C'est bien quand il y a une action comme ça. Ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Frères et sœurs, nous venons de voir une victoire. Une victoire qui s'est passée dans l'Église primitive et ça va amener... Acte 15, mais rassurez-vous, je ne vais pas le développer. Acte 15, c'est le premier concile de Jérusalem. Le premier concile de Jérusalem où il sera acté que Dieu maintenant cherche les païens. Alors vous connaissez les autres, l'autre vocabulaire, hein, les païens, les gentils, les non-juifs, et les amène à la foi. Frères et sœurs, prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous convainc de ta puissance, de ton amour, et nous donne, Seigneur, la joie au cœur de savoir que tu es le Dieu des païens comme le Dieu des juifs et que tu es celui qui nous cherche tous pour tisser une relation, une histoire avec chacun de nous. Frères et sœurs, Seigneur, merci pour ces frères et sœurs qui ont écouté cette prédication ce matin. Je te prie de remplir leur cœur de joie et de paix de cette parole et je te prie de nous donner à tous, Seigneur, le désir de continuer et de suivre ton chemin, Seigneur, que tu as tracé pour chacun de nous. Amen. Et avant d'aller m'asseoir... Oui, je vais boire. Je voudrais demander à quelqu'un qui, ce matin, est prêt à donner à son cœur au Seigneur. Il est prêt. Il a entendu la louange, il a chanté des cantiques, il ou elle... Et puis il vient d'entendre la prédication, il se rend compte que Dieu l'aime, il se rend compte que Dieu veut tisser une histoire avec lui ou avec elle. Ben, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un veut s'avancer ? Puis je vais prier pour lui, pour elle. C'est tout simple l'évangile. On n'a pas à faire des complications. Donc s'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait se lever et faire un pas, comme ça a été dit dans une prophétie, c'est le moment publiquement, comme Corneille devant ses soldats, de se lever et de dire « je crois en Jésus et je veux que vous priez, et je veux qu'on prie pour moi. » Voilà. L'invitation est lancée. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais c'est l'occasion de donner son cœur au Seigneur chaque fois qu'il nous appelle et chaque fois qu'il veut tisser une histoire. Ça me montre qu'il faut que j'arrête.
Merci beaucoup, André.